Rincez-vous la chatte.
J'ai admirablement dominé la peur, mais j'ai eu bien des fois bien peur.
Couche-toi. Immédiatement. J'ai dit immédiatement.
Il faut que vous partiez pour Londres.
Avec vous?
Vous n'allez pas me faire croire qu'une femme comme vous a peur.
Qu'est-ce que vous pouvez savoir d'une femme comme moi?
Mathilde Carré, dite la chatte. Une des figures les plus déroutantes de l'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale. D'autant plus troublante qu'il s'agit d'une femme. Mais aussi parce que bien des secrets la concernant dorment aujourd'hui encore dans les archives des services secrets. Et sans doute pour longtemps.
On vous a déjà dit que vous avez des yeux de chat.
Cette Française, qui s'engage dès 1940 dans le renseignement en faveur des Britanniques, sera retournée l'année suivante par l'Abwehr, le contre-espionnage allemand, avant de reprendre du service auprès de l'Angleterre. À la fin de la guerre, cette agente double, voire triple, sera accusée d'avoir froidement livré des dizaines de résistants aux Allemands.
C'est la chatte !
En 1949, reconnue coupable en France d'intelligence avec l'ennemi, Mathilde Carré sera condamnée à mort.
Le tribunal, après avoir délibéré, conformément à la loi, déclare coupable l'accusé des faits qui lui sont reprochés et en répression, condamne à la peine de mort, dit que, conformément à l'article 12 du Code pénal, elle aura la tête tranchée. Garde, emmenez-la, l'audience est terminée.
Espion. Une histoire vraie. Stéphanie Duncan sur France Inter.
Au procès, l'apparente absence de regret de Mathilde Carré choquera les Français encore très marqués par les blessures de l'occupation. Dans les nombreux articles et livres qui lui seront consacrés, rarement une espionne suscitera autant de sentiments extrêmes, entre fascination et haine, attirance et répulsion.
Les femmes sont souvent plus téméraires que les hommes, mais dans un lit, après, elles parlent.
Figure de traîtresse, cette petite femme aux cheveux noirs et aux yeux brillants, qu'on dit intelligente mais sans cœur, amorale et sexuellement insatiable, semblera tout simplement l'incarnation du mal. Et son nom de code, la chatte, n'arrangera rien. Dans les années 50, le réalisateur Henri de Coin s'inspirera dans deux films de cette femme célèbre.
Henri de Coin a donné le premier tour de manivelle de la chatte. Le célèbre acteur allemand Kurt von Meisel tourne la scène capitale, l'arrestation du fameux agent de renseignement de la dernière guerre, personnifié par Françoise Arnoul. La détention sera de courte durée, et au bar du studio, la jeune vedette a retrouvé Bernard Buffet, venu en voisin.
Mais ces films racontent une autre histoire, très édulcorée, sans rapport avec la vraie Mathilde Carré. Et le mystère sera complet quand on apprendra qu'après sa condamnation à mort, la coupable sera non seulement graciée, mais finalement libérée, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Mais qui est vraiment Mathilde Carré, alias la chatte ? Sans l'irruption de la guerre, Mathilde Carré, née Bélard en 1910 au Creusot, ne serait sans doute jamais devenue la chatte. Au début des années 30, la jeune Mathilde, qui aime la littérature et la musique, étudie la philosophie et le droit à la Sorbonne. Mais la vie avec ses parents l'ennuie. Que faire ? Comme beaucoup de jeunes filles de bonne famille, Mathilde décide de se marier. Avec qui ? C'est d'une bien étrange manière qu'en 1932, elle va faire son choix, en jouant à pile ou face. C'est donc le hasard qui la porte sur un enseignant, Maurice Carré. Un homme sérieux, mais avec lequel elle va rapidement s'ennuyer. Surtout lorsque le couple part vivre au fin fond de l'Algérie, alors département français. Mathilde, version moderne de Madame Bovary, tourne vite en rond dans le quotidien d'épouse de fonctionnaire colonial. Mais un coup de chance inespéré change la donne.
« Le 1er septembre 1939, Hitler annonce au Reichstag que depuis ce même jour, 5h45, l'Allemagne tire sur la Pologne. Les troupes polonaises ont résisté avec héroïsme, mais elles étaient impuissantes contre les engins blindés.
Et deux jours plus tard, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. La guerre, c'est la mort, les bombes, la faim. Mais la guerre, c'est aussi l'écroulement des certitudes et des convenances. Et pour un homme ou une femme qui s'ennuie, l'occasion peut être de vivre une aventure, sans toujours prendre la mesure du danger. Mais, sans la conscience de quelques têtes brûlées, la France se serait-elle libérée du nazisme? On n'en est pas encore là. En septembre 1939, Maurice Carré est mobilisé. Un bon débarras pour Mathilde, qui dira plus tard
« Mon mari, alors, était mort pour moi. »
En fait, le pauvre mourra pour de vrai en 1944 dans les rudes combats de Monte Cassino en Italie, quand Mathilde, elle, sera dans les geôles anglaises. C'est en septembre 1939 que la future chatte pose sa première patte dans l'espionnage. À Alger, cette femme intelligente, qui ne manque ni de charme ni de bagou, réussit à entrer en contact avec un officier du 2e bureau, le service de renseignement de l'armée française. Elle veut s'engager. Mais qu'est-ce que cet agent secret peut répondre à cette femme sans expérience? Prudent, il l'invite pour l'instant à devenir infirmière. Mais est-ce pour ses qualités présumées d'espionne ou parce qu'ils deviennent amants? Un an plus tard, lorsqu'ils se retrouveront à Vichy, l'officier du 2e bureau se souviendra de la petite chatte. C'est lui qui lui trouve ce surnom. Pour l'instant, Mathilde Carré rentre en France et, après une formation d'infirmière, part sur le front avec la Croix-Rouge.
La Belgique, le dimanche 10 mai 1940. Quelques jours après, tout était fini. Le Luxembourg, il était seul, neutre. Et l'Allemagne s'attaqua à la fertile Hollande. Au-dessus de la Hollande, neutre et seule. Et la voie étant libre, la ligne Maginot débordée, la puissance allemande a frappé vers le centre de la France.
En mai 1940, lors de l'offensive allemande qui sera fatale à la France, Mathilde est au cœur des combats. Celle qui sera souvent décrite comme égoïste ne manque pas de courage pour secourir les blessés. Un jour, prise sous les feux allemands, elle se jette dans un fossé et lance à un médecin qui est près d'elle.
Il y a presque un plaisir sensuel dans le danger, vous ne trouvez pas? Votre corps tout entier semble soudain prendre vie.
Des paroles qui choqueront quand elles seront rapportées à son procès en 1949. Quand arrive la débâcle et l'exode en juin 40, Mathilde se retrouve dans le flot des civils qui fuient l'avancée allemande.
Et les armées sont arrivées à Paris. L'Allemagne triomphait vraiment.
Et le 17 juin, le nouveau président du Conseil, Philippe Pétain, en décide ainsi. Il n'est plus question de se battre.
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
Alors que la France semble s'écrouler, et avec elle toutes les certitudes, l'heure est au sauf qui peut. Au gré du hasard, Mathilde Carré, qui a abandonné son uniforme d'infirmière, atterrit à Toulouse. C'est là qu'en septembre 1940, un soir d'errance, une rencontre va changer sa vie. Elle boit un verre avec une amie à la Frégate, un bar fréquenté par des réfugiés et des soldats. L'ambiance est animée. Un homme en uniforme d'aviateur, brun, mince, séduisant, l'observe et finit par s'asseoir à sa table.
Pourquoi venez-vous me trouver ? Il y a plein de filles ici, beaucoup plus jolies que moi.
Parce que vous avez l'air si intelligente, si spirituelle. Vous savez comment je vais vous appeler? Mon petit Spitfire.
Le Spitfire, un avion de chasse anglais. C'est vrai que Mathilde Carré a un charme tonique. De grands yeux verts qui pétillent, elle parle avec assurance et aime séduire. Lui, c'est Roman Tcherniavsky, un officier polonais de 30 ans qui s'est retrouvé coincé en France après la défaite. Pendant des mois, ils ne vont plus se quitter. Et assez vite, il lui révèle un secret. Armand, c'est son nom de code, est un espion polonais. Et son gouvernement, exilé à Londres, l'a chargé de monter en France un réseau de résistance, le futur réseau interallié. Comme Mathilde est française, elle pourrait l'aider. Rien, évidemment, ne peut faire plus plaisir à notre héroïne, avide de sensations fortes. L'objectif du réseau, recueillir des renseignements sur les moyens militaires allemands en France. Mathilde se souvient alors de l'officier du deuxième bureau qu'elle avait rencontré à Alger. Un contact qui peut leur servir. Mathilde se rend donc à Vichy pour le retrouver. La situation dans la capitale de l'État français est étrange. Si Pétain et son gouvernement collaborent activement avec l'occupant, aussi surprenant que cela puisse paraître, certains officiers des services secrets de Vichy restent favorables aux Anglais et à la guerre contre Hitler. C'est le cas de l'ami que Mathilde avait connu à Alger et qu'elle retrouve à Vichy. Cet officier du deuxième bureau est très intéressé quand la jeune femme lui apprend la création d'un réseau de résistance anglo-polonais. Et le temps que Mathilde va passer à Vichy, il va la former aux rudiments de l'espionnage. Chiffrage, encre invisible, maniement des armes, dans la journée. Le soir, avec son manteau de fourrure et son béret rouge, l'apprenti espionne fera sensation à l'hôtel des ambassadeurs, cherchant à glaner des renseignements dans ce bar où conspirent fonctionnaires, diplomates et espions. Au bout de 3 semaines, Mathilde quitte Vichy pour retrouver Armand. Mais avec une mission, continuer d'informer en secret son ami des activités du réseau interallié. Cet officier du deuxième bureau ne cherche pas à nuire aux Britanniques, mais souhaite connaître leurs intentions sur le sol français. Quand Mathilde sera à Paris, elle communiquera régulièrement avec lui par le biais de 2 boîtes aux lettres. Une chez une mercière de la rue du Chemin Vert, l'autre au vestiaire du sous-sol du Café de la Paix. Mathilde Carré fait donc très fort. À peine devient-elle espionne qu'elle est déjà une sorte d'agent double. Et ce n'est qu'un début. En novembre 1940, Armand et Mathilde montent à Paris. Leur mission, mettre sur pied le réseau interallié en zone occupée. Recruter des agents, recueillir des renseignements, un travail énorme, difficile, extrêmement dangereux, de jour comme de nuit, dans lequel, de l'avis général, Mathilde excelle.
Le monde entier et la victoire du monde semblaient être dans nos mains.
En 1941, leur réseau compte 250 agents dans toutes les régions. Un véritable exploit. D'autant plus remarquable qu'en 1940-41, la résistance en France est quasi inexistante, très isolée et inexpérimentée.
Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Jeanne a faim. Grand-père mange nos bonbons. Il est temps de cueillir les tomates.
Tous les soirs, Armand et Mathilde, à l'écoute de la BBC, guettent les messages personnels qui leur indiquent une livraison d'armes ou une mission à accomplir. Tandis qu'eux-mêmes, sur leur poste émetteur, envoient des renseignements précieux à Londres. Des messages en morse qui tous commencent ainsi.
Au ministère de la guerre à Londres, la chatte vous parle.
Souvent, quelques heures après l'envoi de ces messages, un avion anglais s'envole vers la France et bombarde une usine allemande ou un dépôt de munitions. Armand, Mathilde et leurs amis d'interalliés reçoivent alors un message de félicitations de Londres. Mais il faut fréquemment déménager pour ne pas être repéré par les Allemands. Des camions de radiogoniométrie circulent dans Paris, chargés de localiser d'éventuelles liaisons radio.
Zentrale Antigua, Zentrale Antigua, geben Sie Befehl direkt an Einsatztrupp Hätte.
Achtung, Einsatz. Kommt sofort. Treffpunkt. Ende.
Abfahren.
À tout moment, la Gestapo peut surgir.
Ouvrez, police allemande! Ouvrez ou j'enfonce la porte! Ouvrez! On est mettés ici. Vous avez un poste clandestin, on le sait. On l'a entendu. Où est-il?
Par précaution, à l'été 1941, Armand et Mathilde déménagent avec leur poste émetteur à Montmartre, dans une jolie maison de la Villa Léandre qui existe toujours. Mais en octobre, mauvaise nouvelle pour Mathilde. Armand fait venir auprès de lui une résistante, Renée Borny, qui n'est autre que sa maîtresse. Mathilde, se sentant trahie, prend une chambre dans le quartier tout en poursuivant son activité avec Interallié. Le 16 novembre 1941, à la Villa Léandre, Armand réunit les responsables d'Interallié pour fêter joyeusement leur premier anniversaire. Mais il l'ignore, le réseau n'a plus que quelques heures à vivre.
Ce petit mot gentil, ce petit mot qu'on dit, qui sonne plus que jamais à vos oreilles. En vous il sommeille, voilà qu'il s'éveille, espoir. Il suffit de penser à lui, alors on nous tout resplendit, espoir. C'est lui qui pénètre en nos cœurs pour y prolonger le bonheur, espoir. Petit feu par moment voilé, tu allumes le monde entier comme un brasier, espoir. De toi l'on se nourrit, bien mieux que d'un rôti. Que belle est donc la vie quand tu fleuris ce que j'écris. Ce soir tu me séduis, beauté choisie, n'est-ce pas toi qui ris ici, si, espoir. Il est prouvé que l'on vit d'espoir. Pourquoi monsieur n'en pas avoir? Pourquoi madame ne pas y croire? Tous les journaux ont leur lendemain. Les grandes histoires ont aussi leur fin. Espoir, ce n'est parfois pas plus long qu'un soir. Ça suffit pour s'apercevoir que chacun de nous a dans son tiroir pour quelques sous d'espoir. Espoir. Que l'on vit d'espoir. Pourquoi monsieur n'en pas avoir? Pourquoi madame ne pas y croire? Tous les journaux ont leur lendemain. Les grandes histoires ont aussi leur fin. Espoir, ce n'est parfois pas plus long qu'un soir. Ça suffit pour s'apercevoir que chacun de nous a dans son tiroir pour quelques sous d'espoir.
Espion, une histoire vraie. Stéphanie Duncan sur France Inter.
Automne 1941. Voilà un an que Mathilde Carré, dite La Chatte, et Roman Tchernyavski, alias Armand, ont créé ensemble le très efficace réseau de résistance anglo-polonais Interallié. Le 16 novembre, à leur QG de la Villa Léandre, à Paris, les membres du réseau fêtent joyeusement cet anniversaire. Mais ils l'ignorent,
le réseau n'a plus que quelques heures à vivre. Alors que la plupart des convives, sauf Mathilde, ont dormi sur place, à 6 heures du matin, ils sont réveillés en sursaut.
Ils ont été là. Ils sont à la rue, mais en l'air, Endo.
Police allemande, vous avez une réunion ici?
Mais non.
Fessim. Animat. Animat.
Keiner bewegt sich. Keiner bewegt sich. Handschellen anlegen.
Los, beeil dich. Los, los, geh runter.
Oui.
Los, alle los. Abfahrt. Oh. Los.
Armand et tous ses camarades présents à la Villa Léandre sont arrêtés. Mais comment l'Abwehr, le service de renseignement de l'armée allemande, les a-t-il localisés ? Quelques jours plus tôt, dans le port de Cherbourg, un agent allemand a entendu par hasard dans un bistrot un docker fortement aviné se vanter de connaître des secrets.
Tu peux se vanter de connaître quelqu'un. On se croit discret et un jour on bavarde.
Arrêté, interrogé, cet homme, qui appartient au réseau interallié, s'est rapidement mis à table. Et de fil en aiguille, l'Abwehr est remonté jusqu'à la Villa Léandre. Mathilde est arrêtée à son tour le jour suivant, confondue par sa rivale René Borny.
C'est elle ! C'est la chatte !
Mathilde Carré est écrouée à la prison de la Santé. Une expérience qui aura des conséquences tragiques.
J'avais si froid que je gardais sur moi mon manteau de fourrure. Le trou d'aisance de ma cellule sentait horriblement mauvais. J'ai compris qu'il m'était impossible de rester dans un endroit pareil.
Mathilde connaît la consigne. En cas d'arrestation et d'interrogatoire, il faut tenir au moins 24 heures sans parler, pour laisser le temps aux autres membres du réseau de disparaître. Mais le lendemain matin de son arrestation, celle qui se croyait une grande espionne ne va pas résister 2 minutes à la menace de la torture et de la mort. Conduite avenue de l'Opéra à l'hôtel Édouard VII, le QG de l'Abwehr, elle est interrogée par Hugo Bleicher. Un étonnant personnage. Simple sergent, mais ambitieux et fin limier, Bleicher, qui entend démanteler tout le réseau, demande à Mathilde de trahir ses camarades.
Madame, vous travaillez pour nous et vous serez libre. Sinon, je vous fais exécuter. Vous avez compris.
Mathilde acquiesce. Et voilà, la chatte vient d'être retournée par l'Abwehr. Bleicher ne perd pas de temps. Sur le carnet que les Allemands ont trouvé dans le sac de Mathilde, il est noté un rendez-vous. 19 novembre, 11h, au Pam Pam Bar. Bleicher décide d'accompagner Mathilde en se faisant passer pour un ami belge. Alors qu'ils sont installés tous les deux dans ce bar des Champs-Élysées, un homme entre, reconnaît Mathilde. Voyant qu'elle est accompagnée, il marque une hésitation. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter, c'est un ami. Le résistant s'assoit et parle donc sans crainte. À un moment, Bleicher se lève pour partir et poliment propose à l'homme de le déposer. Ils montent tous les trois en voiture, mais arrivé place de la Concorde, Bleicher lance soudain au résistant
« Vous êtes dans une voiture de la police allemande et je vous arrête. »
Blême de stupeur, l'homme se tourne vers Mathilde qui, elle, détourne le regard. Et toute la journée et les 5 jours suivants, le même scénario tragique va se répéter.
Ouvrez, police allemande !
Mathilde, qui sert d'appât, dénonce tous les membres du réseau les uns après les autres. Le nombre des personnes arrêtées est mal connu, entre 50 et 100. Beaucoup ne reviendront pas de déportation. Ce sont les survivants et les familles des disparus qui, à la libération, porteront plainte contre la chatte. Sa trahison sera d'autant plus terrifiante quand on apprendra que dès le soir de son arrestation, elle est devenue la maîtresse d'Hugo Bleicher. Le fait-elle sous la contrainte ?
Couche-toi, immédiatement. J'ai dit immédiatement.
ferai ce que vous voudrez.
Ou bien Mathilde agit-elle, comme elle l'a toujours fait, au gré des événements et de son intérêt immédiat, avec peut-être en plus l'envie de se venger de l'homme qui l'a trahi. Hugo Bleicher, de son côté, réalise un beau coup de filet, mais il veut davantage. Il décide d'utiliser le poste émetteur de la Villa Léandre pour rétablir le contact avec Londres. Officiellement, pour les Britanniques, si Armand et René Borny ont été arrêtés, Mathilde, elle, a réussi à s'enfuir. Pour mieux tromper les services secrets anglais, c'est Mathilde, dont ils connaissent le style, qui rédigera les messages radio. L'idée est d'envoyer à Londres de fausses informations, emplacement de navires ou de troupes par exemple, et en revanche d'en recevoir de vraies. Les Britanniques mettront un peu de temps à comprendre la tromperie, ce que les Allemands appellent un jeu de radio, un Funkspiel. Mais un événement inattendu va de nouveau bouleverser le destin de l'espionne Mathilde Carré.
Ils sont là, venez vite.
Pierre de Vaumécourt, un Français qui travaille pour le SOE, le Special Operative Executive, le service secret d'action créé par Churchill en Angleterre, a été parachuté en France au printemps 41 pour y créer un réseau de résistance, le réseau Autogiro.
Et demander le parachute.
Mais en novembre, coup dur. Son opérateur radio est abattu par la Gestapo. Pierre de Vaumécourt, nom de code Lucas, ne peut plus communiquer avec Londres. On lui dit alors qu'à Paris, la chatte possède un émetteur. Elle pourra l'aider. Mais Lucas se méfie. Comment cette agente d'Interalliés a-t-elle pu échapper si facilement à l'arrestation de la Villa Léandre ? Et les messages qu'elle envoie à Londres sont de plus en plus suspects.
Ici, on n'a pas confiance. Jamais. Et on se tait.
Mais Lucas n'a pas d'autre solution et il décide de tenter le coup. Un rendez-vous est pris avec elle le 28 décembre 41, au Georges V, un café élégant des Champs-Élysées.
Ah, c'est vous la chatte.
Un homme, attablé à quelques mètres, ne perdra pas une miette du rendez-vous. Hugo Bleicher, bien sûr. Mais l'agent de l'Abwehr, qui veut en savoir plus sur les intentions britanniques, n'arrête pas Lucas tout de suite. Mathilde, qui se présente à Lucas comme une ardente résistante, accepte de transmettre ses messages à Londres, qu'elle s'empresse évidemment de montrer à Bleicher. Mais au bout de quelques jours, après plusieurs incidents troublants, Lucas n'a plus de doute. Mathilde travaille pour les Allemands. Un soir de janvier 1942, il lui inflige un interrogatoire en règle. Au bout d'une heure, bombardée de questions, la chatte finit par craquer.
Je travaille pour l'Abwehr. Je vais tout vous dire. Tout ce que je veux, c'est trouver une occasion de me racheter et de prendre ma revanche sur les Boches.
La chatte, agent double pour l'Abwehr, serait donc prête à devenir agent triple ? La première réaction de Lucas, atterré, est de vouloir abattre celle qui a trahi 50 résistants. Mais il comprend vite qu'elle peut lui être utile. Il échafaude alors dans l'urgence un plan ingénieux. Mathilde ira raconter à Bleicher que Lucas est rappelé en Angleterre pour une réunion du SOE, que les Allemands doivent le laisser partir, car à son retour en France, il reviendra avec un général anglais et des renseignements militaires top secrets à divulguer à plusieurs chefs de réseau. Une belle arrestation en perspective, de quoi appâter Bleicher. Le pari de Lucas est doublement risqué. Mathilde va-t-elle vraiment jouer le jeu ? Et Bleicher va-t-il croire à cette fable ? En ce qui concerne Mathilde, elle sait bien que les Allemands finiront par se débarrasser d'elle et qu'elle a donc tout intérêt à jouer la carte anglaise. Quant à Bleicher, contre toute attente, il va tomber dans le piège. Même quand Mathilde lui suggère qu'elle aussi parte en Angleterre pour espionner les services secrets anglais au profit de l'Abwehr. Une idée en réalité de Lucas.
faut que vous partiez pour Londres.
Avec vous?
Vous n'allez pas me faire croire qu'une femme comme vous a peur.
Qu'est-ce que vous pouvez savoir d'une femme comme moi?
En l'emmenant à Londres, Lucas souhaite mettre la chatte hors d'état de nuire. Et c'est ainsi qu'en février 1942, une incroyable opération d'exfiltration vers l'Angleterre est montée par les Anglais, avec la bénédiction de l'Abwehr qui croit berner les Anglais, alors qu'en fait, ce sont les Allemands qui sont bernés. Un navire anglais doit venir en pleine nuit récupérer Lucas sur la côte bretonne. Par deux fois, à la dernière minute, l'opération échoue à cause de la tempête. Enfin, dans la nuit du 26 au 27 février 1942, Lucas et Mathilde réussissent à embarquer à la pointe de Bille, sur une vedette de la Royal Navy. À leur arrivée en Angleterre, Lucas informe le chef du SOE des liens de Mathilde avec l'Abwehr et qu'il convient de surveiller cette femme extrêmement dangereuse. Mathilde Carré sera détenue en Angleterre jusqu'à la fin de la guerre, puis expulsée en 1945 vers la France pour y être jugée. Au terme de son procès, le 7 janvier 1949, elle est reconnue coupable d'intelligence avec l'ennemi. Pourtant, il n'est pas simple de juger un agent double, voire triple, qui a commis les pires trahisons, certes, mais aussi de vrais actes héroïques. Le réquisitoire de l'avocat général, cependant, est sans appel pour la chatte, qui porte aussi le nom de code de Micheline.
La résistance de Micheline Carré, son arrestation, puis le double jeu qui amène l'extermination des réseaux, enfin le triple jeu lorsqu'en 1942, elle entre en rapport avec les services de renseignement français et qu'elle sert, au dire d'un témoin, honnêtement. Mais la confession de son travail pour les Allemands est entière, l'évocation des parties fines édifiantes, et Maître Béconnier peut sans peine affirmer que Micheline Carré a touché le fond de la trahison et que ses actes antérieurs ou postérieurs ne seraient pesés dans la balance. C'est la peine de mort qu'il exige. Le réquisitoire serré a tenu la salle en haleine durant 3 heures.
Pendant la lecture du verdict, les victimes n'en croient pas leurs yeux. La chatte mâche un chewing-gum comme si tout cela ne la concernait pas. En 1975, interviewée par France Inter, Mathilde Carré gardera un souvenir amer de ce procès.
Personne n'a témoigné pour vous non plus.
C'est une énigme pour moi. Pourquoi est-ce que le jour de mon procès, on m'a amenée toute seule, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, l'expression n'est pas de moi. Et là, on a présenté des tas de gens qui sont venus témoigner contre moi. Mais quand j'ai demandé que l'intelligence service pour laquelle j'avais travaillé vienne...
Mais vous ne pensez pas qu'un agent de renseignement qui demande que ses patrons se déplacent pour...
Je sais maintenant
que ce soit incompréhensible.
Mais je sais maintenant qu'on ne se dérange pas, on sacrifie les agents. Mais dans ce temps-là, je croyais encore qu'on pouvait venir dire ce n'est pas nous qui l'avons arrêtée en Angleterre, elle a toujours bien travaillé pour nous. Je croyais qu'on ferait venir Bleicher, mon ennemi allemand de ce temps-là. On ne l'a pas fait venir, il était en vacances de Noël.
Mais comment pouviez-vous vous attendre à une explication franche dans une enceinte de tribunal entre agents de renseignement?
Mais parce que j'étais innocente. Mais innocente, non seulement, je croyais que quand quelqu'un pouvait être défendu, on pouvait venir la défendre. Je me suis aperçue qu'un agent, on s'en moque complètement, on s'est sacrifié.
Drôle de procès, en effet, où n'ont pas été convoqués Roman Czerniewski, alias Armand, le bel officier polonais avec lequel elle avait créé le réseau interallié, ni le SOE anglais, ni Hugo Bleicher, le terrible agent de l'Abwehr qui maintenant tient un bureau de tabac dans son pays. Ont-ils des secrets que les services de renseignement français ou britanniques préfèrent ne pas voir divulgués? Et comment se fait-il que Mathilde semble si indifférente à sa condamnation à mort? Peut-être parce que 2 ans plus tôt, en 1947, elle a reçu la visite en prison d'un officier du renseignement français. cet héritier du deuxième bureau, qui n'a pas oublié celle qui travaillait pour lui pendant la guerre, lui aurait fourni, dans sa cellule, la version des faits à donner à son procès. En échange de quoi, il lui garantissait de ne pas écoper de plus de 5 ans de prison. En effet, Mathilde Carré, alias La Chatte, condamnée à mort en janvier 1949, sera graciée 4 mois plus tard et libérée en 1954. Elle mène une vie retirée jusqu'à sa mort en 2007, à l'âge de 97 ans, sans avoir révélé ses secrets. Une tranquillité qui tranche avec ses années terribles d'espionne.
J'ai admirablement dominé la peur, mais j'ai eu bien des fois bien peur.
Une histoire vraie de Stéphanie Duncan, réalisation Hélène Bizio, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Julien Dumont, au mixage Benjamin Orgeret. Une émission que vous pouvez réécouter ou podcaster sur franceinter.fr.